Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. On est avec Aymeric et Virginie aujourd'hui à Soustelle. Pourquoi on est là, Virginie ?
Eh bien, on est là aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon. Bonjour Margot, bonjour Aymeric. Alors oui, on est ici aujourd'hui pour « Vie ma vie de bûcheron ». On est là pour se mettre dans la peau des métiers de la forêt, pour présenter donc ces métiers-là. C'est un événement qui est organisé par l'interprofession forêt-bois qui s'appelle FIBOIS, FIBOIS Occitanie, et la charte forestière du Pays Cévennes, voilà, est partenaire de cet événement-là. Donc nous sommes sur la commune de Soustelle.
Et on va rencontrer du coup plusieurs personnes qui travaillent en gestion et en exploitation forestière. C'est parti. Donc là, on est en forêt avec Laurent qui est bûcheron. Bonjour.
Débardeur par câblage.
Débardeur par câblage. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre journée type de débardeur ?
Ben, souvent, il s'est levé à 5h30 du matin. Parce qu'il y a souvent entre 2h et 3h de route pour aller sur les chantiers. Après, bon, il y a maintenance de la machine qu'on fait le soir en fin de journée pour démarrer le matin. C'est-à-dire tout ce qui est graissage, plein de la machine, entretien. Après, bon, on travaille la journée souvent en binôme avec le bûcheron. Alors des fois, il y a des endroits où le bûcheron peut travailler seul, où il fait l'avance parce que lui, il supervise le travail aussi. Moi, j'arrive derrière pour débusquer le bois. Parce qu'en fait, c'est un débusqueur. Le débusqueur, ça, c'est un débusqueur. C'est une machine à câble où il y a entre 100 et 200 mètres de câble sur les bobines. Parce que là, bon, on travaille en bord de piste, mais on tire du bois jusqu'à 140, 150 mètres selon le relief. Et voilà. On a entre 1 et 4 crochets sur chaque treuil selon la grosseur des bois. Parce que bon, si c'est des gros bois, on met des fois un arbre, des fois on en met 2, des fois on en met 3, des fois on en met 4. Ça dépend de la diversification du peuplement. Quoi. Et après, voilà, on adapte. Et puis après, bon, il faut savoir que la machine prend à peu près 60% de pente, ce qui fait à peu près 30 degrés. Après, bon, c'est un métier où il faut quand même rester vigilant, il faut aimer la solitude. On travaille quand même dans des endroits, il faut supporter le climat aussi parce qu'en réalité on travaille avec la chaleur, l'hiver des fois avec le froid, voire la neige, voire la pluie, parce qu'on n'a pas le choix. Et voilà,
avec
bon, après.
Changeante tout le temps. Et vous êtes basé où? Vous travaillez sur quel secteur?
Moi je travaille sur la Lozère, Gare, Hérault, Ardèche, des fois Aveyron. Et voilà, il faut compter. Voilà. Après je travaille en gros dans un rayon de 100 km autour de la maison. 120, 130, mais l'été, bon, des fois je suis en déplacement dans les campings et tout ça.
Et votre formation, comment vous êtes devenu débardeur ?
Nous, ça fait 3 générations qu'on est dans le bois. Mon grand-père débardait avec des bœufs. Mon père a fait ça également. J'ai mes oncles aussi qui en ont fait. Et bon, moi j'ai fait l'école forestière en plus à la Bastide des Jourdains, dans les Alpes de Haute-Provence, pendant 3 ans. Après, le reste, ça s'apprend sur le tas, quoi. Après, bon, il faut évoluer en fonction aussi de ce qu'évolue l'époque. C'est quand moi j'ai commencé, des abatteuses, il n'y en avait pas. Les radiocommandes, c'était les toutes premières qui arrivaient. On tirait le câble, il fallait remonter au tracteur, ça coinçait. Je veux dire, les plus fortunés arrivaient à se payer une radiocommande et puis le matériel n'était pas si performant que maintenant. Maintenant, bon, le matériel est performant, mais vu le rendement qu'il faut faire pour arriver à résister à la conjoncture financière actuelle des entreprises, tout ça, des PME, TPE, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est des métiers passion, quoi.
Oui.
C'est pas un métier qu'on peut faire si on ne l'aime pas. D'accord. Parce que c'est compliqué quoi, quand la machine elle panne au fond d'un trou, qu'il y a de la boue, qu'il faut dépanner, on sait que ça va coûter une fortune.
Oui.
Si la machine vaut des fortunes, les réparations, voilà, c'est des métiers, on ne peut pas les faire. Il ne faut pas le faire uniquement pour l'argent. On le fait déjà pour la passion et l'argent après ça vient par la suite, mais il faut déjà aimer le métier. Et bon, à savoir que c'est un métier aussi à haut risque. Quoi. Il faut quand même être vraiment prudent parce qu'il y a quand même un bûcheron sur 5 qui n'arrive pas à la retraite. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont payé le tribut, hein. Voilà, hein, qui sont écrasés par des arbres, tout ça. Et voilà, hein, c'est des métiers quand même, il faut être vigilant. Quoi.
Et la satisfaction, c'est d'être en forêt.
Après, si l'argent il vient avec, c'est mieux. Mais bon, il faut travailler quelques années pour payer le matériel au départ, pour arriver à être quand même en place. Et puis bon, il n'y a rien de vraiment acquis actuellement. Je veux dire, on n'est pas à l'abri des accidents. Tous entre nous, on a eu des accidents au passage, qui m'ont arrêté des fois 6 mois, 1 an. Il y en a qui ont pu reprendre, d'autres non. Il y en a beaucoup d'entre nous. Bon, dans une carrière d'exploitation forestière, c'est rare qu'il n'y ait pas des pépins. Quoi. Quand même, le facteur de la fatigue, du rendement qu'il faut faire, qui est présent. Quoi. C'est, voilà, c'est un métier quand même où il faut rester humble.
Merci beaucoup Laurent, on vous laisse travailler. Et on est actuellement avec monsieur Cassis qui est bûcheron, bonjour.
Bonjour.
Et est-ce que c'est un métier que vous appréciez? Est-ce que c'est difficile parfois?
Ça dépend. C'est, quand il y a été mouillé comme ça, c'est un peu difficile pour les glissages et tout ça. Ouais. C'est un peu difficile, dangereux aussi. Ouais. Mais pour mon métier, j'aime beaucoup.
Okay.
Pour mon métier.
Okay.
Sur... Vous avez le sourire.
Ah oui, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait longtemps que je travaille. Okay. J'aime l'amitié.
Okay. Et c'est quoi que vous appréciez particulièrement dans le métier? C'est être dehors, au contact de la nature?
Ah oui, c'est ça. C'est obligé ça.
Le cadre, le cadre de travail est chouette quoi.
Oui, c'est okay. Ça. Ouais. Okay. J'ai mon métier, tout ça. Surtout, je ne peux pas changer le métier.
Okay.
Ah. Ah, ouais. Même si je travaille dans une autre usine et tout ça, je n'aime pas.
Okay. Okay.
Pour la nature, ça, tous les jours et, l'aspiration de la nature et tout ça.
C'est trop bien.
On vous a vu couper des arbres, un peu maritime, et puis après des châtaigniers. Est-ce que vous avez appris à comment couper les arbres, comment ça s'apprend ça, ce qui retombe bien et choisir les essences?
Oui, oui, ça, c'est obligé ça pour l'expérience que j'en ai, pour mes collègues, M. Poulès, et tout ça, avec mon Philippe Bernard. On est obligé, si tu n'as pas de l'expérience, tu ne peux pas travailler pour les grands arbres comme ça. Si tu es obligé pour le. Tu le fais à la place les autres. Quand je suis bichronnage, je l'ai fait la place, moi, la place des débardeurs.
Vous essayez de le faire tomber à des endroits qui ne vont pas casser le futur de la forêt.
C'est ça. Comme tu l'as vu, on a évité pour le casser, pas tous les qu'il y en a.
Ouais.
On allait chercher les places pour plus facile, soit pour les débardeurs, soit pour moi, soit pour le... On ne casse pas les arbres.
Ouais, okay.
C'est ça.
Donc il faut une certaine vision pour prendre tout ça en compte, arriver à bien couper l'arbre, bien l'orienter quand vous le faites tomber.
Oh oui, c'est ça.
Ok, merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée.
Également, merci.
Merci.
Bonjour Yann-Philippe, tu es gérant d'Environnement Bois Énergie, une entreprise qui est basée au Salle du Gardon. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise-là?
Oui, bonjour Virginie. Effectivement, donc nous c'est Environnement Bois Énergie, on est basé au Salle du Gardon, on a été créé en 2007. On fait de l'exploitation forestière et des travaux forestiers, en Cévennes notamment, mais pas que. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs. On fait donc de l'exploitation forestière classique à usage des papetiers, cire, palette, charpente. Et on fait également du bois énergie pour les chaufferies biomasse et qui ont remplacé les chaufferies gaz, pétrole, charbon par du copeaux de bois. Et on fait également les travaux forestiers et environnementaux, donc des entretiens de rivières, des abattages bord de route, des OLD, obligations légales de débroussaillement. Et du défrichement pour des parcs photovoltaïques, éoliens et des emprises de zones industrielles.
Et alors, dans l'entreprise, quel type de métier on retrouve? Quelle personne, typiquement, vous pouvez embaucher pour réaliser ces différents travaux?
Alors, des bûcherons, classiques à la main, des conducteurs de machines, porteurs, abatteuses, skideurs. On a également des chauffeurs de camions grumiers, des chauffeurs de semi-remorques, et on a également des chauffeurs de machines pour du débroussaillage, donc des broyeurs forestiers. Ça, c'est les grands métiers de notre entreprise.
Et le tien de métier, tu peux nous en parler?
Et moi, je suis censé coordonner tout ça. Donc, en amont, trouver les chantiers, faire les devis, voir les propriétaires forestiers pour mettre en route des chantiers, acheter du bois sur les parcelles des propriétaires forestiers, et après, mettre en route des chantiers chantier et le suivre. Donc s'assurer que, eh bien, on fait ça dans les règles de l'art. S'il y a des dérives, essayer de corriger et pour mener à bien les missions qu'on nous confie.
Comment es-tu tombé dedans?
Alors, c'est un héritage familial. Mon grand-père faisait ça. Mon père a fait ça et fait encore d'ailleurs, puisqu'il me donne encore un bon coup de main. Et moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Quoi. Voilà, l'été, j'allais bosser sur les chantiers, à couper du bois au début, débarder, à conduire des camions. Et puis voilà, alors j'étais pas destiné à ça au départ. Moi, j'avais fait études de journalisme, donc j'étais parti pour faire toute autre chose. Et puis à un moment, il a fallu faire un choix parce que les circonstances diverses ont fait qu'il fallait choisir une voie et j'ai choisi celle-ci. Donc, et je fais ça depuis.
Aucun.
Même si tous les jours ne sont pas simples, même si on fait face à des difficultés multiples, mais c'est un défi permanent, mais c'est intéressant.
Et du coup, le recrutement là, dans la filière forêt-bois, ça se passe comment? Est-ce que vous trouvez facilement des opérateurs? Est-ce que les gens y sont formés? Est-ce que vous arrivez à les garder?
Alors là, on touche du doigt, et non pas du bois, on touche du doigt. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un métier qui n'est pas très sexy, pas très attrayant, mal connu. Les gens ne font pas ça forcément pour les bonnes raisons. Il y a des gens qui viennent là-dedans alors qu'ils ne sont pas forcément convaincus et passionnés. Or, c'est vraiment un métier de passion parce que compliqué, notamment tous les travaux manuels, débardage, bûcheronnage, c'est quand même physique. En été, on a chaud, en hiver, on a froid, à l'automne, on se mouille. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de contraintes extérieur lié au, voilà, au fait qu'on travaille avec la météo. Donc c'est vrai que ça complexifie le recrutement. Et aujourd'hui, c'est quand même nous pour une véritable inquiétude. Trouver du monde pour venir nous accompagner parce que le travail y en a, on est en croissance perpétuelle, donc on a besoin de recruter. Mais c'est vrai que c'est délicat. Voilà. Ça, c'est un vrai, pour nous, c'est la vraie problématique. On ne craint pas de manquer de travail, mais de gens pour le faire. Vraiment.
Donc il y a de la place chez Environnement Bois Énergie aujourd'hui.
Ah, nous, toutes les âmes convaincues, motivées, qui ont envie de, voilà, de se frotter à un métier qui n'est pas facile. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas vendre du rêve, ce n'est pas, oui. C'est pas le but. C'est un métier, encore une fois, passion, mais qui requiert beaucoup, beaucoup de contraintes qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans l'aventure. Voilà. Mais on peut faire une carrière, on peut se réaliser, on peut. Nous, les gens qui font ça chez nous, gagnent bien leur vie parce que c'est, on est conscient du fait que ce soit compliqué et que ce soit délicat de recruter. Donc, quand on a des gars qui sont compétents et concernés par notre projet, voilà, on n'a aucun problème à rémunérer comme il se doit. Mais voilà, on est ouvert aux candidatures de gens qui ont envie de se frotter à notre beau métier, mais qui n'est, voilà, pas facile. Faut pas.
Et du coup, tu dis, les gars, c'est quand même majoritairement des métiers masculins.
Voilà. Alors là, ouais, effectivement, c'est à l'heure de la parité, c'est ce que je dis est pas bien, mais c'est qu'on a un métier de... Voilà. Aujourd'hui, nous, le personnel féminin, c'est le personnel administratif. On a trois personnes au bureau. Voilà. Là, ce sont des gens du sexe féminin, mais sinon c'est que dans les bois, en forêt, c'est sur la route, c'est un métier, voilà, qui est encore une fois. Après, on ferme pas la porte aux candidatures de femmes, c'est pas l'idée, mais de fait, c'est un métier de bonhomme, quoi. Voilà.
Curiosité, moi, sur la machine qu'on a vu fonctionner, notamment la batteuse, qui est une machine assez dingue, sortie de la science-fiction, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu travailler ça. Et ça a l'air très technique à conduire. Et est-ce que toi, par exemple, tu as déjà essayé de conduire ça? Et est-ce que ça se conduit facilement ou est-ce qu'il faut un gros bagage d'entraînement? Est-ce qu'il y a vraiment un simulateur avant de jouer à ça? Ah ouais. J'imagine que oui, parce que vu le prix de la machine derrière, tu nous as dit que c'était très très cher. Et est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette machine?
Alors, exactement, il y a un simulateur, les écoles forestières sont équipées de simulateurs, à Javol ils en ont un, à Mimizan ils en ont un, et effectivement, il faut, avant de se lancer là, sur ce type d'outils, il faut s'être exercé via simulateur avec un jeu vidéo, quoi, en gros. Pour en revenir à la première question, j'ai eu connu cette machine, j'allais dire à mes débuts, voilà, j'ai essayé de passer à tous les postes de l'entreprise pour essayer de comprendre et de connaître et savoir un minimum de quoi je parle. Aujourd'hui, je suis totalement hors du coup parce que j'avais pas pratiqué ça depuis 10 ans, donc je ne saurais plus faire. S'il fallait, on s'y remettrait, mais ce serait compliqué. Mais parce que c'est très technique, ça requiert, voilà, de pratiquer ça régulièrement. Il y a des notions d'électronique, faut être un peu chef d'orchestre parce qu'il faut savoir souder, il faut savoir réparer des flexibles hydrauliques, il faut avoir aussi un côté civicole parce que c'est le gars qui fait ça, il sectionne l'arbre à battre, le passage dans la forêt. il y a vraiment une dimension de... il faut avoir une vision de la forestière fine si on veut être compétent. Donc à la fois, il faut être compétent et avoir ce côté-là d'approche de la forêt et pour arriver à faire un travail de qualité. Quoi.
Merci beaucoup, Yann.
Sans plaisir.
Alors on est maintenant avec Célia Faiton qui travaille à l'interprofession Fibois Occitanie. Et du coup toi tu as une vision assez complète des différents métiers qui existent sur l'ensemble de l'amont et de la filière forêt-bois.
Oui, en fait, la filière forêt-bois, c'est très vaste. On connaît la figure emblématique du bûcheron, parfois on la connaît mal d'ailleurs, mais derrière se cachent plein d'autres métiers en forêt. Et puis tout au long du parcours du bois, on va retrouver toute une série de métiers accessibles avec des CAP jusqu'au Bac plus 5, voire au-delà. Pour se renseigner sur ces métiers-là, il y a un outil très simple. Il y avait Vide mes buts de bûcheron aujourd'hui, par exemple, à Soustel, et puis pour ceux qui n'ont pas pu venir, n'hésitez pas à retrouver toutes les infos sur le site Métiers Forêt Bois. Sur ce site, on trouve des petites fiches métiers, des vidéos, un quiz d'orientation avec des petites questions toutes simples. Qu'est-ce que j'aime faire? Travailler dedans, dehors, en équipe, etc. Travailler avec ses mains. Il y a plein de choses possibles. Et ça donne en réponse une palette de métiers, y compris celles des métiers auxquels on ne pense pas, qui sont pourtant en lien avec ses aspirations ou ses envies. Donc ça, c'est assez sympa à faire, c'est tout simple. Les enfants comme les plus grands peuvent le faire. Et puis, donc, ces fiches métiers, on retrouve des vidéos, des témoignages de professionnels en situation. Donc là aussi, ça permet de donner un peu le cadre professionnel dans lequel s'exercent ces métiers. Et pour parvenir à ces métiers, toute la liste des formations, je le disais, du CAP jusqu'au Bac plus 5, voire au-delà, école d'ingénieur, recherche. Il faut savoir, par exemple, qu'en Occitanie, on a 12 recherches en doctorat actuellement sur la forêt. Pourtant, on pourrait dire que le bois, on le connaît bien. Eh bien, on continue d'apprendre avec le bois. Voilà.
Est-ce que tu peux rappeler le site?
Alors, c'est www.métier au pluriel, tiré du 6, forêt-bois.org.
Merci beaucoup.
On vous propose une petite pause musicale, voilà, et j'en profite pour faire une spéciale dédicace à notre ami DJ Yvan Le Bleu, donc qui nous a fait connaître ce titre. C'est Done With You des Wittest Boy Alive.
Et c'est maintenant l'heure de la fameuse chronique d'Emeric sous le monde du parc national des Cévennes.
Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Emeric, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui ?
Eh ben, je vais vous raconter la forêt qu'on a traversée, donc on a eu une démonstration d'exploitation. Et moi, j'étais avec mon petit carnet, puis je notais toutes les espèces présentes. Et en fait, comme on est à quelques centaines de mètres d'altitude, on n'est même pas autour de 400 mètres d'altitude, versant nord, dans un sol relativement profond, eh ben, on avait une grosse diversité d'essences forestières qu'on ne pouvait pas soupçonner en arrivant ici. Moi, je m'attendais, on va trouver que du pin maritime et du châtaignier. Et en fait, j'ai compté pas moins de 19 espèces d'essences forestières.
Alors, qu'est-ce que tu as vu un peu d'étonnant ?
Alors, étonnant ou attendu, bon, les espèces plantées, Douglas, 7 de l'Atlas, ça c'est des plantes qui vont, enfin des arbres qui vont être exploités. Et dans les espèces plutôt méditerranéennes et classiques dans cet environnement, il y a l'arbousier, évidemment. Alors, ce n'est pas une essence forestière qui est cultivée, mais...
En accompagnement,
voilà. Le micocoulier aussi. Alors, le micocoulier, j'insisterai juste après pourquoi j'ai envie d'en parler. Et c'est un arbre qui est intéressant d'un point de vue signification au niveau du climat que ça signale. Il y avait des tilleuls, il y avait du noisetier. Bon, le lierre, c'est pas vraiment une essence, mais il est en accompagnement, du prunelier, du châtaignier évidemment. Les lentes, c'est toujours une essence à surveiller parce que quand on lui donne de la place, elle s'étend partout et on a du mal à s'en débarrasser. C'est une plante qui vient du Japon. Sureau noir, figuier, chêne vert, laurier sauce, laurier amande. Le laurier amande ou laurier cerise, c'est le laurier dont toutes les parties sont toxiques et sentent l'amande amère. Donc on s'en méfie de ce laurier, c'est ce que j'appelle le béton vert qui sert à faire un peu nos haies très, très monotones qu'il y a un peu partout dans les lotissements. J'invite à changer parce qu'il faut diversifier un peu ces haies. Voilà toutes ces essences, dont le merisier, j'ai oublié aussi, et le houx. Ça faisait une grosse diversité. Et ce qui était intéressant, c'est que de voir que la pratique de coupe qui était là, qui n'était pas une coupe, évidemment, une coupe rase, eh ben, elle laissait la place à toutes ces essences pour s'exprimer. Donc c'était principalement le pin maritime qui était prélevé. Ailleurs, il y avait aussi du cèdre et du douglas. Mais là, sur cette zone-là, principalement du pin maritime, et on voyait que toutes les essences que j'ai citées pouvaient, à un moment donné, reprendre une place et continuer à prospérer et à donner un peu cette image un peu plus diversifiée de la forêt cévenole. Parce que quand on la regarde de loin, là, comme ici, on a l'impression qu'il n'y a que du châtaignier, du pin maritime, mais en fait, il y a plein de choses qui se cachent là-dessous. Voilà. Et puis j'avais, du coup, je vous parlais du micocoulier. Moi, j'aime bien insister sur une essence, et pourquoi pas le micocoulier. Le micocoulier, qui est probablement une essence qui va être favorisée par le réchauffement climatique, parce que c'est une essence méditerranéenne. Et c'est pas une essence forestière de renom, mais là, au 19e siècle, elle a été beaucoup exploitée dans le sud de la France, notamment dans le village de Sauve, que certains connaissent, pour la fabrication des fourches, des tridents.
Ouais.
Voilà. Et donc était cultivé donc jusqu'à un âge de quelques années, hein, c'est pas très long pour cultiver une fourche. Mais il y a plein d'autres usages du 19e siècle qui sont perdus aujourd'hui, les fouets, les cravaches, les manches, tout ça s'est perdu, mais ça a servi à ça. Et c'est un excellent bois de chauffage aussi,
ouais.
D'après, et pour les tourneurs aussi.
Les tourneurs ils aiment bien. On avait interrogé Elisabeth Babi, et Elisabeth. Mézières, pardon, de Chambourigaud, qui nous disait, je crois me souvenir qu'elle aimait bien cette essence-là. Ouais.
Donc c'est une essence, moi, que je perçois comme en extension, en tout cas, qui se comporte bien donc à basse altitude, plutôt en dessous de 400-500 mètres d'altitude, mais qui probablement va grimper et qui pourra être accompagnée, une essence qu'on ne voit pas du tout encore en Cévennes ou de manière très anecdotique, par le chêne liège. Ils ont tous les deux un peu les mêmes exigences, et au niveau de chaleur, je parle, pas du tout au niveau du sol, hein, parce que le micocoulier, il a plutôt besoin de sol un peu profond et bien bien drainer, alors que le chêne-liège, il va s'adapter à des sols siliceux, parfois difficiles. Mais en tout cas, l'un signale la potentialité de l'autre. Et comme je vois qu'on avait vu sur la précédente émission au château de Sauvage, que le chêne-liège pouvait très bien se comporter à proximité d'Alès, donc il a potentiellement un avenir. C'était un petit peu, en mettant l'accent sur le micro-coulier, c'était un peu de me dire aussi, le chêne-liège a peut-être une place d'avenir en Cévennes. Peut-être pas pour forcément faire du bouchon, mais en tout cas pour toujours diversifier. Puis reconnaître que si on ne diversifie pas les essences, on a nos œufs dans beaucoup moins de paniers et qu'il faut diversifier un peu les essences pour s'adapter au réchauffement. Voilà, je me dis qu'il y a probablement encore à creuser. Là, tout à l'heure, avec un collègue, on va aller voir une forêt dans laquelle il y a des chênes des Canaries, un arbre dont j'ai déjà parlé ici. Et c'est des chênes qui sont très proches, qui sont en Catalogne, donc qui ont toutes les chances d'avoir un potentiel en Cévennes. Voilà. Je me dis qu'il faut s'ouvrir à une échelle plus large de l'arc méditerranéen au niveau des essences forestières, sinon... on risque d'avoir très peu d'arbres, même si j'en ai compté une vingtaine, c'est peut-être pas suffisant. Voilà.
Pour s'adapter et imaginer les forêts de demain.
C'est ça. En tout cas, ne pas s'interdire certaines implantations, surtout quand elles viennent de l'Europe ou de l'arc méditerranéen proche. Voilà mon petit message sur les essences forestières.
Merci Monsieur Sulmon.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cette émission s'achève. Vous avez vécu avec nous « Vie ma vie de bûcheron » organisée par Fibois Occitanie à Soustel. C'était un premier événement et peut-être qu'on répétera l'affaire. Merci Aymeric, merci Margot, à bientôt.
À bientôt.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107.